Bonjour madame, nous sommes les représentants de la radio du lycée Victor Hugo. Nous sommes ici pour en savoir plus sur le festival alimentaire qui a débuté ce matin même. Et nous savons que vous êtes parmi les organisateurs de ce festival. Donc nous avons quelques questions à vous poser.
Quel était votre objectif en organisant un festival alimentaire à l'échelle internationale?
Donc l'objectif de l'organisation de ce festival au lycée, en partenariat avec l'Institut, c'est de sensibiliser les jeunes de l'établissement, qui seront de futurs adultes et donc de futurs citoyens, à l'importance de l'alimentation et l'enjeu alimentaire qui est de nourrir une population croissante, ce qui pose problème aujourd'hui parce qu'on ne sait pas comment on va faire. Et donc de sensibiliser les jeunes à cet enjeu, pour les faire réfléchir à l'importance de savoir d'où vient ce qu'ils mangent, comment ça a été produit et est-ce que les travailleurs qui ont produit cette nourriture peuvent vivre de ce qu'ils font. Donc autrement dit, est-ce que l'alimentation sera saine et durable pour les consommateurs aussi bien que pour les producteurs?
Et en quoi l'alimentation est un enjeu majeur du XXIe siècle?
Donc comme je le disais, la population croît. Et les surfaces cultivables, elles, n'augmentent pas, puisque la surface de la terre est toujours la même. Donc, il va falloir trouver le moyen de produire plus, sans augmenter forcément les surfaces, parce qu'on va quand même éviter de détruire toutes les forêts pour avoir du sol cultivable. Et donc, il va falloir augmenter les rendements sans endommager, sans qu'il y ait d'impact sur la santé et sur l'environnement. Donc, il va falloir inventer de nouvelles techniques agricoles pour produire plus. Et en polluant moins, puisque là le problème c'est que on s'est aperçu que l'agriculture intensive polluait énormément.
D'accord. Alors, est-ce que pensez-vous que le Maroc a un rôle à tenir dans l'accès à l'alimentation de qualité?
Oui, bien sûr, je pense qu'il a un rôle important, je pense que ça débute. Je pense que la COP22 a peut-être aidé à faire prendre conscience aux gens que l'agriculture, il fallait pas pratiquer l'agriculture en n'importe comment. Puisque moi je trouve que ce qui est important au Maroc, c'est que justement ne pas reproduire les erreurs qu'on a pu faire en Europe, où après la Seconde Guerre mondiale, on a utilisé beaucoup de pesticides et d'engrais pour produire beaucoup plus de nourriture. Et maintenant, on s'est rendu compte que les impacts sur la santé et l'environnement étaient tellement importants, bah, qu'il faut changer de façon de produire. Et donc, ça serait bien si au Maroc, on évitait de refaire les mêmes erreurs qu'en Europe et qu'on se mettait tout de suite à penser à des techniques agricoles respectueuses.
Très bien, alors est-ce que la sensibilisation des jeunes, donc ici maintenant dans le lycée, est un axe de votre projet
Oui,
international?
bien sûr, c'est l'objectif principal. Alors, il s'adresse uniquement aux élèves de lycée parce que ce sont des documentaires qui sont un peu complexes parfois, et aussi parce qu'en première, en SVT, le thème nourrir l'humanité est un des thèmes à traiter en S, en L, aussi bien qu'en ES.
Quelles mesures sont mises en place pour donc organiser ce festival alimentaire?
Alors, on est en partenariat avec l'Institut français depuis 4 ans, donc les projections ont lieu dans la salle de cinéma Leïla Alaoui. Et ensuite, on a cette année installé d'autres partenariats avec Terre et Humanisme, donc c'est l'association de Pierre Rabhi, Terre et Humanisme Maroc, et aussi l'association Terre des Étoiles dans le désert d'Agafay. Donc ce qui fait que ce festival, en fait, il va durer plusieurs jours. Les projections scolaires ont lieu aujourd'hui et demain, mais ce week-end, il y a encore d'autres manifestations.
Très bien. Alors, quel conseil pourriez-vous donner donc aux jeunes pour nous pour améliorer notre alimentation?
Déjà de se renseigner pour savoir d'où vient l'alimentation, d'où vient ce qu'ils mangent, d'où vient ce qui est dans leur assiette. Déjà, est-ce que c'est produit au Maroc ou pas? Déjà, c'est une première chose parce qu'il y a tellement de choses qui sont produites au Maroc qu'on n'a pas besoin d'aller acheter des kiwis qui viennent de Nouvelle-Zélande. Et ensuite, réfléchir justement à sa façon de consommer. Est-ce que, parce que ben, peut-être acheter des kiwis qui viennent de Nouvelle-Zélande, ça a un impact considérable sur l'environnement. Donc réfléchir à l'origine de la nourriture et aussi à changer leur façon de consommer.
Question, ce matin, on a eu la chance de voir le documentaire autour de l'alimentation et plus principalement des pesticides et des OGM. Donc j'aimerais juste savoir alors comment, enfin, comment on pourrait combattre l'utilisation des OGM parce qu'on avait vu que c'était donc c'était des produits chimiques qui pouvaient atteindre à la santé humaine. On avait vu des cas où donc des enfants en Argentine plus précisément ont été atteints d'une malformation, des déformations. Donc en fait, quelles seraient les mesures à prendre pour justement éviter d'utiliser ces produits chimiques pour l'agriculture?
Donc là, ce dont vous parlez, ce sont les produits chimiques qui sont associés systématiquement aux OGM. Donc Monsanto, par exemple, développe des semences OGM pour lesquelles il faut utiliser, par exemple, le Roundup Ready, qui est un herbicide qui va détruire les mauvaises herbes sans détruire la plante qui est cultivée. Et donc on voit en effet que ce qui se passe en Argentine,
oui, c'est ça.
En Argentine, c'est que les limites d'épandage des pesticides ne sont pas respectées. Ils n'ont pas le droit, par exemple, d'épandre des pesticides à moins de temps de distance d'une population, ce qui n'a pas été respecté. Donc là, c'est une question de respect des droits des populations qui est à revoir. Après, je ne sais pas si on peut dire qu'il ne faut pas utiliser les OGM du tout. Le problème des OGM, c'est qu'il a été peut-être utilisé de manière massive sans avoir pratiqué le principe de précaution. Le principe de précaution, ça consiste à cultiver dans des laboratoires ou dans des champs d'études et ensuite de voir les impacts pour savoir si oui ou non on développe les OGM à grande échelle. Ça n'a pas été fait aux États-Unis, par exemple. Donc, par exemple, en France, la France a refusé la culture des OGM parce que justement il n'y avait pas eu ce principe de précaution qui avait été respecté. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il ne faut pas du tout utiliser les OGM, mais il faut les utiliser dans un cadre très précis, dans un cadre bien défini, avec des lois à respecter.
Donc ça veut dire que si on utilise des OGM dans des règles bien définies, ça n'atteindra pas à la santé humaine en général.
Peut-être que certains OGM ne sont pas utilisés. Il y a certains OGM qui ont montré qu'ils n'étaient pas du tout plus efficaces que les plantes rustiques, que les plantes traditionnelles. Donc il faut choisir quels sont les OGM utilisables. Et puis ensuite, il faut peut-être trouver les bons OGM qui ne vont pas nécessiter l'emploi d'un usage massif de pesticides, ce genre de choses, par exemple.
D'accord.
Et ce matin aussi, on a vu qu'il y avait une discussion entre les États-Unis et l'Union européenne à propos d'un traité qui s'appelle le traité TAFTA. Quel est votre avis là-dessus ?
Alors, le traité TAFTA, c'est très vaste, mais ce qui était évoqué dans le film, c'est le fait que, par exemple, en effet, en France et en Europe, sur tous les produits alimentaires, c'est obligé d'indiquer s'il contient des OGM ou pas. Aux États-Unis, c'est pas obligatoire. Enfin, ça dépend des États. Mais aux États-Unis, si un État a décidé qu'il ne faisait pas l'affichage, les gens mangent, mais ils savent pas s'il y a des OGM à l'intérieur. Et en fait, les États-Unis voudraient changer ça. C'est-à-dire voudraient qu'il n'y ait forcé en quelque part la France et certains pays européens à ne plus avoir cet affichage pour pouvoir distribuer des produits en quantité contenant des OGM, etc.
On a vu à un moment un débat, enfin pas une sorte de débat, mais une interview entre un lobbyiste, enfin celui dont tu as parlé de Monsanto, et un journaliste. Et on montrait à ce lobbyiste les preuves, faites par des médecins, par des personnes et tout, et il mentait, il a insulté, etc. Est-ce que cette réaction montrait pas à des États ou à la Cour internationale, etc., que ce que fait cette entreprise, c'est pas normal. Si un lobbyiste a ce genre de réaction, ça cache quelque chose.
Mais bien sûr, bien sûr. Ces multinationales Monsanto, et c'est pas la seule, font des études d'impact, par exemple, du glyphosate, mais par des chercheurs qui travaillent déjà à Monsanto, par exemple. Donc forcément, si les résultats prouvent qu'il y a des effets, les chercheurs travaillent à Monsanto. Donc en gros, si les résultats ne correspondent pas à ce que veut Monsanto, le chercheur il va te faire taper sur les doigts. Alors qu'il y a des analyses de ces pesticides qui ont été faites par des chercheurs indépendants, donc c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent de pression de personne et qui n'ont aucun intérêt dans les résultats, qui ont prouvé qu'il y avait des impacts du glyphosate sur certains cancers, par exemple. Donc ça, c'est tout le problème des lobbies qui ont du pouvoir aux États-Unis.
Est-ce que vous pensez que donc cette multinationale Monsanto sera un jour condamnée? Parce que dans le reportage, on n'a pas eu l'occasion de voir le propriétaire de la multinationale. Enfin, ça aurait été bien quand même qu'il y ait une confrontation entre le journaliste responsable et...
Il ne la veut pas, la confrontation. Après, on va voir ce qui se produit. Monsanto va peut-être être racheté par Bayer, qui est une entreprise allemande, je crois bien. Si Bayer rachète Monsanto, tous les procès que Monsanto a sur le dos vont disparaître parce que c'est Bayer qui va racheter la multinationale. Et c'est peut-être bien pour ça que Monsanto va vouloir se faire racheter par Bayer pour ne plus avoir ses procès sur le dos.
Oui, mais si on rachète, ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils ont fait, ça va s'arrêter.
Ben, le problème, c'est que si, parce que les plaintes ont été déposées contre Monsanto. Si Monsanto est racheté par Bayer, la marque, entre guillemets, Monsanto n'existe plus. On sait aussi maintenant que Monsanto a une mauvaise réputation et se fait racheter par un laboratoire pharmaceutique comme Bayer, qui a aussi une très très mauvaise réputation par rapport à ce qu'ils ont fait dans le passé. Donc je pense pas que c'est quelque chose de très bien, sachant que j'ai entendu dire que Bayer avait payé certains États ou certaines personnes pour un peu effacer tous les procès qu'ils avaient sur le dos par rapport à ce qu'ils ont fait lors de la Seconde Guerre mondiale.
Ben oui, c'est ça, c'est tout le problème, c'est que dès qu'ils ont du pouvoir et qu'ils ont de l'argent, ben, ils peuvent interdire des choses, ils peuvent stopper des procès, etc. Parce que justement, ils sont puissants.
C'est sûr.
D'accord, ben, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous pour votre travail.
Merci, c'est très gentil.
Bonjour, je m'appelle Patrick Moore. J'ai cofondé Greenpeace dans les années 70 pendant que je passais mon doctorat en écologie. Puis depuis 25 ans, je suis devenu un écologiste indépendant. Et maintenant, je dirige la campagne pour
le... Le plus au rouleau compresseur américain, c'est la France. Dans les câbles révélés par Wikileaks, je découvre que l'ambassade américaine à Paris est très mobilisée pour le transgénique. D'ailleurs, elle a identifié une bête noire. José Bové. Son nom apparaît plus de 100 fois dans les messages que l'ambassade envoie à Washington. Il souligne que le moustache... Je découvre un petit complot croquignolé.